Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Le 7 janvier 2010, au petit matin, Philippe Séguin disparaissait à la suite d'une crise cardiaque à son domicile. Étonnamment, une immense émotion s'empara aussitôt de la classe politique et de la presse. Un an plus tard, au cours d'un colloque consacré à son père, sa propre fille évoqua l'intensité inattendue de l'émotion par la force de conviction, le refus des compromissions, le respect de l'État et des institutions qui étaient la marque de son père. Plus frappant encore, le quotidien Le Monde, qui ne l'avait jamais épargné, parla à son endroit de passion. Passion est le mot qui résume le mieux sa vie, disait le quotidien. Passion pour l'État et la vie publique dans tous les mandats et les diverses hautes fonctions qui échurent à cet homme resté gaullien quand son parti avait cessé depuis longtemps d'être gaulliste. Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez consacré plusieurs biographies à des grands personnages de notre histoire. Je pense notamment au Péguy, je pense à Lyoté. Vous avez consacré une partie de vos recherches à un magistral Richelieu. Et vous venez de publier aux éditions Perrin, donc dans la collection Biographie, une étude consacré à ce personnage, Philippe Séguin. Et vous avez utilisé un sous-titre, Philippe Séguin, le remords de la droite. Et je vous cite, c'est un extrait de votre introduction. Philippe Séguin, assurément, était la mauvaise conscience de la droite. En mourant, il est devenu son remords. Alors, il y a énormément à dire sur ce personnage et peut-être que la première question que je vais vous poser, la plus généraliste qui soit, c'est quelle vision Philippe Séguin avait-il de l'État ? Parce qu'il avait un culte de l'État.
Oui, il considérait, comme De Gaulle d'ailleurs, quand on lit les mémoires d'espoir de De Gaulle, ça commence par ça, et c'est un thème qui revient toujours, comme De Gaulle, il considérait que l'État était au cœur de la construction française, que l'unité française, c'était pas une question de race, de religion, enfin, il était très, très, comme dans la ligne de Renan, de ce point de vue-là, et il considérait que c'était l'État qui avait fait l'unité de la France, et en plus, il avait une conception de la société très, très, très gaullienne aussi, il considérait que l'État, c'était pas simplement le gendarme qui assure la bonne circulation des choses, c'est pas seulement l'ordre public, pour lui, l'État, c'est aussi le garant d'une certaine cohésion sociale, et il était partisan d'un État social. On disait qu'il était gaulliste social, mais il était gaulliste social comme on est gaulliste, c'est-à-dire comme l'était De Gaulle. Pour lui, l'État avait un rôle qui allait bien au-delà, encore une fois, du rôle minimaliste qu'on lui attribue quand on parle des fonctions régaliennes de manière un peu limitative.
J'ai commencé par sa mort, un peu paradoxalement, mais il y a un paradoxe Séguin dans la mesure où c'est un homme qui, vous le dites dès votre introduction, le 7 janvier 2010, donc ses funérailles furent un événement d'une ampleur paradoxale. Paradoxale parce que c'est un homme qui était un peu en retrait. On discutait avant cette émission de l'image très négative qu'en donnaient les fameux guignols de l'info, d'un homme qui se flagelle un peu maso, alors que ce n'est pas du tout ça.
Non, pas du tout. C'est un homme qui, d'une certaine manière, était victime de la fidélité à ses idées. Et c'est vrai qu'il donnait l'impression, toujours, d'un destin manqué. Quand on parle de Philippe Séguin, les gens qui se souviennent de lui, qui le connaissent, ont toujours ce sentiment d'une vie, finalement, qui a été un échec alors qu'elle était pleine de promesses. À la fin du livre, je dis que, d'une certaine manière, il vaut mieux un destin manqué que certains destins qui s'achèvent de manière un peu terrible en politique, comme on le voit souvent. Il est resté fidèle à un certain nombre d'idées, de convictions qu'il avait. Mais ce contraste, effectivement, entre l'écho donné à sa mort et les dernières années de sa vie, qui avaient été marquées par un certain nombre de revers politiques, ou en tout cas, effectivement, le sentiment d'un destin manqué, m'avait beaucoup frappé. Si je peux rappeler, donner simplement un souvenir personnel.
Allez-y.
J'étais à l'étranger, j'étais à Naples, très exactement en vacances, et j'ai su la mort de Philippe Séguin très tôt. J'étais sans doute l'un des tout premiers, parce que le conseiller de permanence à l'Élysée qui a appris la mort de Philippe Séguin était un ami, et il m'a téléphoné. Donc je crois avoir été un des tout premiers à le savoir. Et je suis rentré 2-3 jours plus tard, et j'étais là pour l'enterrement qui avait lieu la semaine suivante. Mais ce qui m'a frappé, c'est la presse à l'aéroport. J'étais saisi par l'immensité de l'écho, le volume des articles, des pages entières, et je dirais même de bons articles, des articles qui étaient plutôt inspirés et de très bonne qualité. Et c'est là que j'ai réalisé que il y avait quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que le sentiment diffus dans les médias, chez les journalistes, chez un certain nombre de personnalités qui interrogeaient à son sujet, le sentiment diffus qu'il venait de se passer quelque chose, qu'un homme était passé en quelque sorte, et que ça allait bien au-delà de cette image un peu de destin manqué. Et cette idée a été confirmée encore par les funérailles de Philippe Séguin, qui d'abord étaient des cérémonies officielles extrêmement importantes aux Invalides. Et puis par l'attitude, l'importance des personnalités politiques qui étaient là, on avait l'impression d'un regret, oui, et d'un remords. Et c'est pour ça que l'expression m'est venue à l'esprit, et elle traduit assez bien cela. C'est l'idée que c'était pas seulement le destin d'un homme qui était manqué, c'était peut-être en partie le destin du milieu politique auquel il appartenait, de sa famille politique, qui sentait que c'était quelqu'un qui n'était pas comme les autres et qu'elle ne retrouverait peut-être pas de sitôt quelqu'un de cette dimension.
L'intégrité,
oui, ça c'est une qualité qui était certaine chez lui. L'intégrité qui allait de pair avec le sentiment du côté fugitif des choses.
Au-dessus de la mêlée.
Oui, tout à fait, au-dessus de la mêlée. Le souci, l'intégrité intellectuelle, l'intégrité personnelle aussi, ce qui est une précision qui n'est jamais mauvaise de donner. Et l'intégrité intellectuelle, la fidélité à un certain nombre de convictions. Je ne suis pas en train d'ailleurs de faire une apologie sans nuance.
Oui,
le livre, je ne scelle pas un certain nombre de limites ou de défauts qu'on pouvait observer chez chaque personnage, des faiblesses qu'il a pu avoir. Mais quand même, l'intégrité qui allait de pair avec une extrême intelligence, une rapidité intellectuelle qui était très remarquable et que je n'ai jamais vu, à dire vrai, chez un autre homme public à un tel degré.
Alors, on reviendra sur ses qualités, notamment sur son amour de l'histoire, parce que, comme disait un penseur du début du XXe siècle que je connais assez bien, un homme politique doit connaître son histoire. Mais avant tout, je souhaiterais peut-être préciser, vous avez travaillé avec Philippe Séguin, mais votre livre, comme vous le dites, n'est absolument pas une hagiographie. Vous montrez les limites du personnage. Pour l'écriture du livre, puisque Storia Voce s'attache aux sources, vous avez pu avoir accès à des archives personnelles, à des...
J'ai eu accès, j'ai été le premier, je crois, historien à avoir accès aux archives personnelles de Philippe Séguin, qui ont été déposées aux Archives nationales par ses enfants. Donc j'ai vu un certain nombre de pièces, avec d'ailleurs une certaine facilité qui me venait de... que je savais comment il travaillait, donc j'ai surtout cherché, j'ai pas été exhaustif, je pense qu'il y a des secteurs de sa carrière, notamment quand il était ministre des Affaires sociales entre 86 et 88, qui peuvent être beaucoup plus creusés que je ne l'ai fait. J'ai surtout recherché un certain nombre d'éléments, par exemple des éléments manuscrits, des notes de travail.
Vous parlez beaucoup des petites feuilles, voilà, sur lesquelles il écrivait des petits morceaux de papier.
Et qui traduisaient sa pensée, des fragments en quelque sorte. Des fragments qui traduisaient sa pensée, une certaine stabilité dans les convictions. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé d'ailleurs comme tête de chapitre un certain nombre de formules qui, à mon avis, résument tout à fait le personnage et qui sont vraiment de lui.
J'ai appris très tôt que de toute façon, tout était précaire.
Voilà. Oui, c'est l'enfant de Tunisie qui rejoint la métropole et qui finalement n'a jamais été attaché. Par exemple, il n'avait pas de biens immobiliers, Philippe Séguin. Il aurait pu avoir des biens immobiliers. Il était toujours dans la mentalité de celui qui est parti un jour de chez lui.
Avec deux valises.
Voilà, et qui était peut-être appelé à repartir. Enfin, il y avait quelque chose de... Il y avait ce sentiment effectivement de la fragilité des choses chez lui qui était assez touchant, qu'on sentait quand on le connaissait. C'est pour ça que le fait de l'avoir approché, d'avoir travaillé à deux moments de mon existence avec lui m'a aidé. Mais en même temps, j'ai essayé de remettre une distance à partir des archives, à partir de documents divers. J'ai essayé de remettre une distance avec lui pour essayer de comprendre mieux, de mettre une petite sorte de distance qui permet de comprendre la psychologie de l'homme. Et ce sentiment de la précarité des choses est très, très net chez lui, oui.
Mais ça donne une supériorité à l'homme, parce qu'il est plus dans l'être que dans l'avoir, finalement.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis c'était un homme très attaché aux idées. C'était un homme qui, c'était très étrange, parce qu'il était très conceptuel. Il était capable de conceptualiser énormément la politique, l'engagement politique, la vision de la France, avec quelquefois des formules qui étaient très, très pugnaces. Et en même temps, c'était un homme qui savait travailler. Il avait une expérience administrative, politique. Techniquement, il était extrêmement, on dirait aujourd'hui, performant. C'était pas question de pas être à la hauteur, parce que il savait étudier un dossier, il comprenait tout avant tout le monde. Et donc, ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'est à la fois cette capacité conceptuelle, ce goût de l'histoire, effectivement, cette passion pour l'histoire, le respect aussi pour les historiens, et en même temps, cette grande capacité à comprendre tous les aspects techniques d'une question. Mmh. Je n'ai pas travaillé avec lui quand il était ministre des Affaires sociales, mais je pense et je sais que c'était un patron redoutable pour cette raison, parce qu'il était à la fois très politique et très technique, donc les collaborateurs ne pouvaient pas...
Et très colérique.
Ah oui, ça oui, il était effectivement, c'était quelqu'un qui s'emportait facilement et qui n'en était que plus impressionnant parce qu'il avait un physique, une sorte de... Il était
massif,
grand, il était grand, gros, alors le format a varié au cours de son existence, mais il était toujours physiquement impressionnant, même quand on le connaissait bien, il était impressionnant.
Alors commençons par le commencement, ses origines, vous avez déjà parlé de la Tunisie, enfin à la fois son père... qu'il a très peu connu, et sa mère joue un rôle absolument majeur dans la formation du jeune garçon.
Oui, il est orphelin très vite, il n'a pas connu son père en réalité, puisque son père a été tué dans les combats pour la libération de la France.
Donc il naît en 1943.
Voilà, et son père est mort l'année suivante, et donc il n'a pas connu son père, et il a vu son père à travers le voile du souvenir, et puis l'image aussi que sa mère lui a transmise, puisque sa mère lui avait composé une sorte de cahier où il y avait à la fois des lettres de son père, des photographies, toutes sortes de témoignages. Et évidemment, il a été habité pendant toute sa vie par le souvenir de ce père qui était mort pour la France, qu'il n'avait pas connu, et qui était à la fois, qui lui manquait, et qui en même temps représentait quelque chose. Et sa mère a beaucoup compté dans sa vie, et il disait lui-même d'ailleurs, ses souvenirs, il a écrit un livre de souvenirs qui est très très bien, en 2003, dans ses souvenirs, il dit qu'il s'est rendu compte qu'il avait été injuste avec sa mère peut-être dans sa jeunesse, et que c'est tardivement qu'il s'est rendu compte de l'importance que sa mère avait eue dans sa formation, et du courage aussi qu'elle avait eu pour l'élever. Et c'est assez frappant, là aussi, cette sorte de retour sur le passé.
Quand il est interviewé en juillet 2003, dans la une de l'actualité, on lui demande s'il a été un enfant heureux. Il répond jusqu'à 11 ans, oui. L'adolescence, ensuite, a posé plus de problèmes.
Tout à fait. Et ces choses, d'ailleurs, qu'il ne disait pas, dont il ne parlait pas spontanément. Et d'ailleurs, il est extrêmement difficile de savoir ce qu'il met derrière cela. Je pense qu'il y a eu le côté déracinement, même s'il était fasciné par la France. Sa terre natale, c'était la Tunisie. Il lui est resté attaché jusqu'à la fin de sa vie. Il y allait régulièrement. Il aimait beaucoup la Tunisie, vraiment beaucoup. Il disait que c'était son autre patrie. Il aimait beaucoup la France aussi, mais quand il est arrivé en France adolescent, pour lui, la France, pour rejoindre sa mère qui s'était remariée, et pour faire ses études, poursuivre ses études, quand il est arrivé en France, la France, c'était une idée qu'il avait découverte à travers les livres, à travers des images, et puis aussi à travers, là encore, le voile un peu tremblé du souvenir de son père, qu'il n'avait pas connu, mais qui incarnait la guerre, et puis cet effort collectif oublié aujourd'hui, et qu'a fait la France pour terminer la guerre dans le camp des vainqueurs.
Alors cette question est très importante parce que il s'élèvera régulièrement contre l'idée de repentance et du fait que on oublie particulièrement tous ces hommes qui se sont battus, notamment à partir de la Tunisie, contre l'occupant.
Ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup agité, notamment à partir du milieu des années 90, lorsque, pour être très clair, notamment au moment du discours de Jacques Chirac au Veldiv, de l'affaire Papon, il a eu le sentiment, il l'a dit d'ailleurs avec une netteté extrême qui n'a pas été appréciée par tout le monde dans sa propre famille politique, il a dit qu'on était en train, en réalité, à travers le procès de Vichy et des Français sous l'occupation, de faire le procès du gaullisme, et il disait on est en train... Je me souviens très bien, il avait cette formule qui revenait toujours, il disait « De Gaulle a fait en sorte que la France termine la guerre dans le camp des vainqueurs malgré l'humiliation de 1940 », et il disait « c'est pas simplement une invention idéologique », il disait « les Français se sont battus pour la libération du territoire », et il parlait de choses qui lui étaient proches, parce que son père était mort dans ces combats. Les Français, il y a beaucoup de Français qui se sont battus en 44-45, et sans compter évidemment les combats qui ont eu lieu pendant l'occupation, la France libre, la résistance, mais les combats militaires qui ont eu lieu pendant l'occupation, il avait l'impression que tout ça a été effacé au profit d'une sorte de... Alors pour le coup, de masochisme collectif qui n'était pas le sien.
Alors, cette idée d'incarnation est très importante. Il y aura une autre idée importante, c'est qu'il va, comme beaucoup de ses contemporains, être marqué par l'instabilité de la Quatrième République. Donc, départ de la Tunisie. Et je le cite, mes grands-parents ont quitté la Tunisie dans de très mauvaises conditions. Ils sont partis littéralement avec deux valises. Mon grand-père a dû chercher du travail à son arrivée en France à plus de 70 ans. Tout cela a été très dur et m'a beaucoup marqué. Mes grands-parents ont eu une fin de vie qui n'était pas digne, non, vraiment pas digne. Et c'est un coup de fouet, c'est-à-dire que là, c'est une réalité politique que de voir cette instabilité de la quatrième.
Oui, parce qu'il attribuait ça en réalité à la faiblesse institutionnelle. Parce que politiquement, il a toujours dérouté un certain nombre de personnes, notamment à droite, parce que c'est vrai qu'il était pour l'indépendance de l'Algérie, il était gaulliste pleinement, y compris pour soutenir la politique algérienne de De Gaulle quand il était tout jeune, quand il avait 20 ans, 18 ans. Mais en même temps, il avait un regard très lucide sur ce qu'avait été la colonisation, la décolonisation. Et il considérait qu'il y avait une sorte de gâchis qui avait été le fruit d'un régime faible. Et son adhésion à De Gaulle, et au gaullisme, c'est une adhésion au passé gaullien, mais c'est une adhésion pour beaucoup aux institutions de la Ve République. Et je crois qu'une des choses qui définissent le mieux Philippe Séguin, et c'est quelque chose qui vraiment m'a frappé en travaillant à partir des archives, en reprenant le personnage, en allant bien au-delà de l'image finalement toujours un peu superficielle qu'on peut avoir à travers les contacts personnels, ce qui m'a frappé, c'est l'importance qu'il accordait à la qualité des institutions et de la compréhension des institutions. Et la grande tragédie, si j'ose dire, de Philippe Séguin, le divorce qui a marqué ses relations avec la droite française, héritière supposée du gaullisme, c'est le sentiment qu'il a eu assez tôt, disons début des années 90 et puis de plus en plus ensuite, que l'héritage que le sens de la Ve République était perdu, que l'héritage des institutions gaulliennes était trahi, et que le gaullisme perdait toute substance pour devenir une sorte de mouvement politique, la droite et le centre, en quelque sorte, c'est une chose informe. Et ça, il l'a vu venir assez tôt, et c'est assez frappant de voir qu'il a été assez prophète de ce point de vue-là.
Il y a un sentiment de solitude chez cet homme. C'est un homme solitaire.
Oui, il était solitaire. Il était solitaire même...
Même d'un point de vue familial.
Oui, tout à fait. Il n'aimait pas être seul, d'une certaine manière. Il avait besoin, parce qu'il aimait l'action, il aimait parler, il aimait avoir des échanges, même s'il était capable de s'enfermer par moments dans un mutisme obstiné.
Ténébreux.
Voilà. Et en même temps, il était très solitaire, très solitaire. Il était très différent, par exemple, pour prendre un homme politique avec qui il a fait un bout de chemin, mais qui était très différent de tempérament, qui était Charles Pasqua. Charles Pasqua avait dans son sillage une sorte de gens qui voilà, avec qui il avait une sorte de relation naturelle, il fidélisait énormément. Philippe Séguin, il a toujours été assez solitaire, c'est-à-dire qu'il avait des gens qui lui ont été fidèles, ça, il avait... mais un petit peu malgré lui par moments, parce qu'il était vraiment quelquefois un peu décourageant. Et c'était un homme étrange, pas du tout comme Pasqua. C'était pas un homme qui était capable de créer un réseau. Et d'ailleurs, il n'a pas su ou pas voulu.
On le voit dans la tentative de conquête de la ville de Paris.
Oui.
C'est pas un homme de réseau.
Ou dans sa façon de, oui, de diriger le RPR.
Oui.
C'était. Voilà, il y a un détail qui était amusant, c'est que quelquefois, quand il était président de l'Assemblée nationale, pour aller à un colloque qu'il devait ouvrir et qui était de l'autre côté de la rue, quelquefois il y allait en voiture parce qu'il n'avait pas envie de croiser certains parlementaires et de leur faire un brin de conversation, parce qu'il n'était pas d'humeur, parce qu'il n'aimait pas ça dans le fond. Et en même temps, on le voyait quelquefois, il était capable d'emballer littéralement, s'il voulait faire l'effort, des gens qui n'avaient pas forcément une sorte d'emballement naturel, mais parce qu'il était d'humeur à le faire. Donc il avait un caractère compliqué, solitaire, et en même temps, il est arrivé quand même à avoir toujours des gens qui le suivaient, qui étaient fidèles, parce qu'il avait cette sorte de force de conviction, et puis cette grande intelligence, et un brillant intellectuel qui était très frappant, et cette intégrité aussi.
Alors ce côté brillant, bien évidemment, apparaît au moment de son passage à l'ENA.
Oui.
Et c'est là où il prend systématiquement un contre-courant. On l'attendrait dans une critique de l'ENA, mais pas du tout. C'est un homme qui estime que l'ENA est une école, c'est la méritocratie et c'est l'incarnation de l'État.
Oui, c'est-à-dire que c'est un homme qui ne considérait pas que pour trouver une institution nécessaire, il était indispensable de l'aimer ou de la trouver aimable. Je crois qu'il n'a pas aimé beaucoup la scolarité à l'ENA, comme d'ailleurs peu d'élèves de l'ENA. Ce n'est pas une scolarité qui laisse des souvenirs impérissables, parce que c'est une scolarité un peu dure, avec une compétition difficile. Mais lui, il estimait que c'était la règle du jeu, parce qu'il était effectivement très attaché au concours, au recrutement par le mérite, et puis parce qu'il en avait bénéficié. Il disait « je suis une petite chose, arrivé d'Aix-en-Provence ». Je crois que c'était le premier ou un des tout premiers élèves de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à être reçu à l'ENA. Et il était issu quand même d'un milieu modeste, il connaissait personne, il n'avait pas de réseau, et donc il estimait que l'ENA, c'était une institution qui l'avait permis d'accéder à un niveau de responsabilité très tôt, très vite. Et donc il était assez équitable, il considérait que oui, il connaissait les défauts de cette institution, mais il n'aimait pas qu'on l'attaque, parce qu'il disait que c'était toujours pour de mauvaises raisons.
Il assume totalement le fait que ça soit la promotion Robespierre.
Oui, 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 ça le faisait sourire. Il disait, ma promotion s'appelait Robespierre, avec un grand rire. Oui, oui, il l'assumait, parce qu'il disait qu'il valait mieux le nom de quelqu'un qui évoquait quelque chose qu'un nom fade ou sans relief.
Alors, il a, et vous le présentez dans votre ouvrage à ce moment-là, il tire de cette scolarité une forme de gravité. Et c'est vrai que pour les personnes de ma génération, des années 70, on l'a toujours vu comme un personnage grave. On sentait dans son regard, dans sa façon de s'exprimer, que les choses étaient suspendues et que on entendait non pas un professeur, plus qu'un professeur, en fait.
Oui, c'est très juste. C'est très juste. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu en travaillant sur lui. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer d'avoir justement un regard historique et de mettre une distance avec le personnage, parce que j'ai vu des photos que je ne connaissais pas de Philippe Séguin, jeune homme. Notamment, je me souviens d'avoir vu une photo, il y en a peu, une photo où il est en voiture avec des amis. Il a l'air plein de gaieté. Et je me souviens en particulier d'une photo, je n'ai jamais vu cette expression sur son visage, et j'ai l'impression que ce sourire s'est effacé à partir d'un certain moment. Et l'interprétation que j'en ai faite, à partir de, éventuellement d'ailleurs de témoignages que j'ai pu recueillir, et puis d'une analyse du personnage et de son parcours, c'est qu'à un moment, oui, où il a revêtu une certaine gravité et où il est parti dans une sorte de course d'obstacles. Et d'ailleurs, il dit lui-même, dans ses souvenirs à un moment donné, que pour lui, il y avait toujours, après une première étape, il y avait l'étape d'après, qui courait toujours après quelque chose qui n'était pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qui était une sorte de destin qu'il devait accomplir. Et puis je crois que comme il était très intelligent et il avait un très bon esprit d'analyse, il a été oppressé assez vite par le sentiment quand même que les choses se dégradaient, que les institutions se dégradaient, que le milieu politique auquel il appartenait, auquel il entendait rester loyal, se dégradait. Et ça, il le ressentait presque physiquement. Et ça, c'est, comme il était très expressif, ça se voyait. Alors là, c'est l'historien recoupe ses analyses avec les souvenirs. Ça se voyait à sa façon de réagir physiquement à certaines choses.
Puisque vous parlez de physique, enfin, il prenait absolument pas soin de sa santé. Il était aussi peu exigeant sur sa santé qu'il était exigeant dans son travail, en fait.
Il y a eu des moments où il était plus soucieux de sa santé, de son apparence, notamment quand il était président de l'Assemblée nationale, où il avait fait un très gros effort. Il avait essayé d'arrêter de fumer, il avait essayé de mincir, ce qui d'ailleurs n'allait pas forcément ensemble. Il avait d'ailleurs minci. Il y a des périodes où il s'habillait mieux que d'autres. J'aime beaucoup la photo de la couverture du livre, parce que c'est une photo qui était prise, je pense, en 1990. Il est bien habillé, et puis c'est bien lui, son expression, une certaine gravité d'ailleurs.
Avec un portrait du général de Gaulle.
Avec un portrait général à l'arrière-plan. Ouais. C'est, tout le personnage est dans cette photographie. Donc, mais simplement, c'est un homme extrêmement stressé, qui ressentait physiquement, encore une fois, un peu tout. Il était angoissé par le fait que les choses n'étaient pas parfaites, que ses collaborateurs n'allaient pas assez vite par rapport à sa propre mécanique personnelle. Il était toujours dans une sorte de pression psychologique. Et je pense que ce régime de vie qui était mauvais et qui très certainement a causé sa mort assez jeune quand même.
67 ans.
Il avait 66 ans, en fait, il allait 61. Avoir 67 ans trois mois plus tard. Je pense que c'est le fruit d'une sorte de vie très active et très stressante, d'insatisfaction permanente. Il compensait d'une certaine manière. C'était pas quelqu'un, par exemple, c'était pas une fine gueule, comme on dit. C'était pas quelqu'un qui était gastronome, qui aimait le bon vin du tout. D'ailleurs, les repas n'étaient pas pour lui un moment de sociabilité ou de délassement. C'était un moment où il se nourrissait et où il compensait pour la nécessité d'énergie physique qu'il ressentait. Mais c'était pas du tout un bon vivant, par exemple. Ça, c'est quelque chose, une idée parce que souvent, les gens un peu forts comme il l'était et qui étaient capables de se singulariser par un rire très retentissant, on se dit non, c'était plutôt un méridional froid. Et assez janséniste d'une certaine manière sur ce plan-là.
Alors comment ce janséniste entre en politique? C'est une forme de parcours obligé, on passe par l'ENA, il arrive très tôt à l'Élysée, il y a la mairie d'Épinal. C'est une conversion lente ou au contraire une image qui, du jour au lendemain, l'amène à s'engager?
Il a toujours été un peu ambigu là-dessus, c'est-à-dire il combattait un peu l'idée qu'il avait une ambition très forte de faire de la politique, mais quand même, on sent, d'abord il est un peu paradoxal, parce qu'on voit bien certains signes, certains mêmes propos qu'il a tenus, qu'il était très ambitieux, on sent qu'il y a un besoin d'action. Alors quand il sort de l'ENA, il sort dans un bon rang, il prend la Cour des comptes, qui est une maison qu'il aime bien, et qu'il aimera bien, et qu'il retrouvera à la fin de sa vie en devenant premier président. Mais enfin, la Cour des comptes, c'est pas un endroit où il se voyait rester des années. Il avait besoin d'être en contact avec le pouvoir, c'est pour ça qu'il... Oui, il était attiré par la politique. En même temps, il n'avait pas de réseau. Il n'était pas particulièrement doué pour s'en faire. Son caractère difficile, exigeant, a été très vite connu dans le milieu politique. Mais en même temps, sa très grande intelligence aussi. Donc, il a dû faire avec ça. Il a dû faire avec ça. Et donc, il lui a fallu beaucoup de volonté. Oui, je pense qu'il avait envie de faire la politique, qu'il aimait la politique, qu'il l'a toujours aimée. Il ne l'aimait pas par goût du pouvoir et de ses pompes, parce que sinon il aurait agi différemment à certains moments de sa carrière. Mais il pensait quand même qu'il avait une étoile et qu'il avait un rôle à jouer, ça c'est certain.
Alors l'étoile est à son zénith, hein, nous faisons un bond dans le temps au moment du traité de Maastricht, qui est extrêmement important pour l'histoire de France. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que cet homme a finalement réussi à rendre populaire un sujet ultra technique. Parce que j'ai le souvenir qu'au début, on parlait du traité de Maastricht, et peu à peu, les opposants se montaient au créneau, et des éditeurs ont commencé à éditer le traité de Maastricht afin de permettre aux gens, à la population, de se faire sa propre idée. Or, enfin, tout oppose finalement les aspirations politiques des gens à un sujet extrêmement technique.
Oui, et puis en plus, il n'y avait que des coups à prendre politiquement, parce que c'était un sujet qui divisait beaucoup à droite et à gauche, mais où quand même l'idée générale, c'était qu'on allait laisser filer. D'ailleurs, François Mitterrand n'avait pas du tout envisagé de faire un référendum au départ. Et c'est Philippe Séguin qui, très tôt, a compris que ce traité était très important, parce qu'il allait engager la France dans une évolution irréversible, difficilement réversible, comme d'ailleurs l'avenir l'a montré, sur des principes absolument fondamentaux. C'était pas la poursuite de la construction européenne, c'était une étape radicalement différente de ce qui avait précédé, la création de l'Union européenne, tout le train de réformes et transformations que le traité de Maastricht a lancé, transformait complètement la nature de la construction européenne, et était une rupture complète avec la vision qu'on avait pu avoir jusque-là. C'était vraiment le chemin du fédéralisme. Il avait le sentiment, alors d'abord, il réprouvait un certain nombre de ces évolutions dont il sentait que, par exemple, la conception de l'union monétaire lui paraissait dangereuse. Et puis, en plus, il considérait que ce n'était pas démocratique de faire ratifier ce traité dans un coin sans que les Français aient eu à se prononcer sur un sujet aussi considérable. Et ça, il a fait un travail pédagogique énorme. Ingrat, parce qu'il s'est mis quand même dans une situation porte-à-faux par rapport à Jacques Chirac, par rapport au RPR, et c'est son énergie personnelle et son effort d'explication pédagogique, qui a commencé avec le fameux discours qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale au printemps 92, qu'il a contraint en quelque sorte le milieu politique à se saisir du sujet, qu'il a contraint, ou en tout cas qu'il a incité François Mitterrand à choisir la voie du référendum. Puis ensuite, il a pris son bâton et il est allé à travers la France, Philippe Séguin, pour expliquer aux gens ce que c'était Maastricht. Et ça a été quand même assez extraordinaire, parce que le référendum a été l'occasion d'un vrai débat, et vous avez tout à fait raison, les éditeurs, on a publié des livres qu'on n'aurait même pas eu l'idée, on a publié le traité. Il y a eu un vrai débat, il y a eu du monde dans ces débats en province. Il n'était pas très soutenu.
Lui-même a publié, enfin dirigé la publication d'un livre qui est extrêmement technique, oui, avec des universitaires, avec Marie-France Garraud. Oui.
Et puis, il a retrouvé un petit peu, il avait reçu une formation pour être instituteur quand il était tout jeune, et il a retrouvé ses vertus pédagogiques qu'il avait, et qui venaient de sa façon de s'exprimer.
Parce que c'est un orateur.
Voilà, c'est un orateur, et puis quelqu'un qui était très clair, qui était capable d'être très pédagogique dans ses formulations, dans le rythme de la phrase. On sentait qu'il avait ce talent. Et puis tout de même, donc, le référendum a eu lieu, avec une participation très importante, et le non a failli passer.
Donc, 1%,
oui. Il a failli changer, d'une certaine manière, le cours de l'histoire. Et c'est vraiment lui. Je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut dire. Et certes, il avait une équipe, il y a des gens qui l'ont aidé, il avait des collaborateurs qui l'ont aidé, qui ont beaucoup contribué à la production intellectuelle, mais c'est vraiment lui. Et d'ailleurs, là aussi, c'est une phrase qu'il a notée sur un papier, une feuille volante, il disait « c'est l'affaire de ma vie ». C'est vraiment lui, et c'était quelque chose qu'il avait pris littéralement aux tripes, et c'est là qu'on voit que c'était pas un homme politique comme les autres. Surtout qu'il y a un moment, il aurait dû comprendre, ou alors il a fait semblant de ne pas comprendre, que ce n'était pas une bonne stratégie s'il voulait être dans les petits papiers de Jacques Chirac, des cadres dirigeants du RPR, ou de la droite en général, qui considéraient que c'était un sujet à ne surtout pas soulever.
C'est au cours de cette période que j'eus enfin, le sentiment de faire de la politique. C'est la réhabilitation du politique sur un sujet technique contre une désincarnation de la politique qui est l'Europe.
Mais il voulait montrer que derrière le détail technique du traité, il y avait des engagements énormes, et que le rôle de la France, le destin de la France en Europe prenait un autre tour, avec toutes sortes d'ambiguïtés, de questions qui allaient rester en suspens, et qui étaient autant de bombes à retardement.
Il a été beaucoup critiqué au moment du débat avec François Mitterrand pour ne pas avoir été à la hauteur.
Oui, il le ressentait douloureusement d'ailleurs, parce que...
Il y avait eu un grand débat qui était organisé dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, où il y avait plusieurs intervenants, et lui, il terminait la soirée.
Avec un débat avec François Mitterrand direct, c'est François Mitterrand d'ailleurs qui l'avait choisi en quelque sorte comme interlocuteur, avec une habileté consommée, parce qu'il avait choisi d'abord l'homme qui avait été le plus en pointe sur le débat, un homme... que François Mitterrand respectait très certainement, qu'il avait connu quand il était ministre des Affaires sociales pendant la première cohabitation. Et François Mitterrand, assez diaboliquement, avait compris que c'était un homme qui avait un tel respect des institutions et de la fonction présidentielle qu'il pourrait en jouer. Et puis il y a eu un autre aspect qui a déstabilisé Philippe Séguin, et ça il le racontait, c'est qu'il avait entrevu, en arrivant sur le plateau, un véritable hôpital de campagne. Le débat sur le plateau a été retardé parce que François Mitterrand ne revenait pas. Il a compris qu'il se passait quelque chose et que le président n'était pas dans son état physique normal, et ça l'a déstabilisé aussi. Donc la conjonction, une double pression psychologique, une qui était médicale, si j'ose dire, et puis une pression institutionnelle. Mitterrand lui a refait avec beaucoup plus de politesse et de courtoisie le numéro qu'il avait fait avec Jacques Chirac dans le débat de l'élection présidentielle de 88. Monsieur le Premier ministre, je suis le président, etc. Et ça, ça marchait auprès de Philippe Séguin parce qu'il avait le respect de la fonction présidentielle. Donc il a eu un peu le dessous, alors que techniquement, sur le sujet, il était...
Au-dessus.
Il était rodé, mais il a paru un peu sirupeux, alors que ce n'était pas son genre. Et d'ailleurs, en fait, Philippe Séguin, il n'a jamais été aussi bon quand il était insupportable. Et il était capable d'être désagréable. Dans les interviews, c'est là qu'il était le meilleur. C'est quand il était en colère, qu'il s'énervait. Quand il essayait d'être aimable ou qu'il était un peu, il n'était pas aussi bon.
C'était mais pas c'est la, finalement, c'est la prostate de François Mitterrand qui a emporté le débat.
Ah ben oui, de toute façon, je crois que maintenant, le référendum, enfin, il y a eu une communication autour de la prostate, si on peut dire, qui a eu un joueur rôle décisif dans l'issue du référendum.
Ça, comment il réagit bien des années après au référendum sur l'Europe perdu par Jacques Chirac
En
2005.
Ah oui, Séguin.
Oui.
Il considérait. Alors, ensuite, une fois que Maastricht était passé, il était pris dans un processus un peu compliqué, Philippe Séguin. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas. Il disait le traité a été voté. Bon, maintenant, il faut faire avec, en quelque sorte. Et il ne voulait pas apparaître comme étant éternellement l'homme du référendum et du non. Donc il a toujours été prudent ensuite dans ses positions sur l'Europe, et tout en gardant un regard critique. Mais finalement, il s'est toujours mis ensuite relativement en retrait par rapport à un sujet où il avait été en pointe. En cela, il a un peu déçu un certain nombre de gens, et en même temps, ça n'a pas changé son image, parce que pour beaucoup de dirigeants politiques, il restait l'homme du non à Maastricht. Il est resté jusqu'à sa mort, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. C'est assez curieux, je pense que c'est une forme là aussi d'intégrité intellectuelle. Et puis je pense qu'il avait aussi une sorte d'angoisse qui était celle d'être un peu marginalisé, un peu comme l'avait été Michel Debré, c'est-à-dire d'être qu'on fasse de lui une sorte de gaulliste historique, un peu rabâcheur et ronchon. Et il avait peur d'être enfermé dans ce rôle. Donc, ce n'est pas forcément sur le sujet européen qui s'est remis en pointe ensuite. C'est sur d'autres sujets symboliques ou pratiques, comme les institutions, ou l'histoire, la repentance, voilà. C'est là qu'il est monté au créneau plus que sur l'Europe ensuite.
Alors, en 1995, Jacques Chirac est élu. Il n'est pas choisi, et vous dites que Chirac lui propose la mairie de Paris et de se battre pour Paris, et là, il fait l'erreur de sa vie, c'est ce que vous dites, en refusant.
Alors lui-même dit que Chirac lui a proposé d'une manière un peu comme ça, et ce qu'il lui a proposé vraiment, c'est une chose dont on ne sera peut-être pas, on ne saura peut-être jamais, mais enfin en tout cas, il n'a pas saisi la balle au bon, et oui, il a eu tort, parce que...
Il pouvait la gagner.
Ah oui, là, puisque la succession de Jacques Chirac était ouverte, il n'y a pas eu encore la succession de Jacques Chirac était ouverte, et quand on voit ce qu'un homme comme Philippe Séguin, son énergie a pu faire dans une ville de 40 000 habitants, on se dit qu'à la tête d'une ville comme Paris, que les moyens qu'il aurait eu et cette sorte de d'activisme incroyable qu'il déployait, c'est un hyperactif. D'abord, il aurait fait des choses très importantes à Paris. Et puis, ça lui aurait donné une tribune, une position politique beaucoup plus claire. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est une proposition qui lui a été faite d'une manière un peu fausse, parce que on a vu ensuite quand même que Paris a toujours fait peur aux dirigeants de la droite. Je ne dis pas qu'ils l'ont perdu délibérément, mais enfin, l'idée qu'un jour un homme comme Jacques Chirac ou une femme fasse la même chose que Jacques Chirac et se serve de la mairie de Paris comme promontoire pour partir à la conquête de l'Élysée a fait peur à tous ceux qui ont suivi. Mais oui, je pense que c'était une erreur parce que c'était fait pour lui. D'abord parce qu'il aurait été un grand maire de Paris, très grand maire de Paris, et ensuite parce que politiquement, il aurait été dans une position beaucoup plus confortable et claire que celle de président de l'Assemblée nationale. Alors, il a fait le choix de rester président de l'Assemblée nationale.
Alors, il a compris ce que l'on voit aujourd'hui. En cela, il a un caractère un peu prophétique de ce fossé entre les électeurs et le monde politique. Et un des révélateurs, et ce sera le dernier sujet que nous allons aborder, c'est le moment de la dissolution.
97, oui.
Et son analyse, encore, elle est institutionnelle. Et vous présentez très bien dans votre ouvrage la conversation qu'il a avec Chirac. Il prépare tous ses arguments. Il a toutes ses notes, mais Chirac reste idéologiquement attaché à l'idée que cette dissolution lui permettra d'avoir les coudées franches.
Oui, Jacques Chirac s'était laissé convaincre, alors c'est toute une histoire, l'histoire de la dissolution, s'était laissé convaincre que tactiquement, c'était un coup habile que de convoquer les électeurs un an plus tôt que prévu, parce que, d'abord, c'est un jeu avec la dissolution, on prend de court ses adversaires, et ensuite parce qu'il savait que, en raison notamment des contraintes européennes, le contexte économique et financier et budgétaire allait devenir plus difficile. Donc c'est un calcul un peu technique, et ce qui a exaspéré Philippe Séguin, c'est que c'était une erreur à ses yeux double. C'était contraire totalement à l'esprit des institutions. La dissolution de confort n'existe pas dans la 65e République, c'est fait pour une raison d'une crise, une crise grave. Et le deuxième, on connaît d'ailleurs l'exemple célèbre de 68, de Gaulle, et le deuxième raison, c'est que pour lui, c'était une erreur politique. Parce que Alain Juppé était quand même devenu déjà très impopulaire. D'ailleurs, il payait le prix un petit peu, il faut bien le dire, d'une volonté de réforme qui avait marqué les débuts du septennat de Jacques Chirac, qui était assez courageux. Mais enfin, il était devenu très impopulaire, Alain Juppé. Et donc Séguin disait, mais enfin, dire aux électeurs, on va vous faire voter un an plus tôt que prévu, et c'est pour vous remettre Alain Juppé pendant 5 ans, il disait, ça va pas marcher. Et il s'en est rendu compte, parce que quand il a fait son boulot, il est allé faire campagne pour les législatives en défendant la majorité en place. Mais il disait que les électeurs d'Épinal, les électeurs vosgiens, disaient, mais monsieur le député, monsieur le ministre, monsieur le maire, pourquoi on nous fait voter à quoi rime cette élection? Et il disait, je ne sais pas quoi leur répondre. Donc il était révolté parce qu'il pensait que c'était un calcul perdu d'avance qui allait faire d'un dommage considérable aux institutions. Et c'est là, je pense, qu'il y a vraiment une fracture profonde et qu'il a compris que la Ve République... Dérivé complètement de son lit, comme d'ailleurs l'a formulé dans une belle lettre qu'il lui a adressée Valéry Giscard d'Estaing au moment où il a pris la présidence du RPR. Il vous appartient de remettre les institutions de la 5e dans leur axe.
Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Arnaud Tessier. Dans la conclusion, vous mettez une de ces fameuses citations, de Philippe Séguin sur les petits papiers, faut-il se résigner? Point d'interrogation. Est-ce que finalement tout ne va pas très mal?
J'ai cherché, en reprenant mes notes, je me suis dit, mais pour la conclusion, et puis j'ai trouvé que cette formule toute banale d'apparence était très profonde, d'abord parce que je pense que c'est la question qui s'est posée, parce qu'à la fin de sa vie, dont il ne savait pas. Sa mort était proche, mais enfin, il était premier président de la Cour des comptes. Il s'était attaché avec beaucoup d'énergie à réformer la Cour des comptes, parce que dès qu'il était quelque part, il fallait qu'il réforme l'institution, qu'il la mette en avant, c'est ce qu'il faisait. Mais enfin, il s'embêtait quand même, il avait la passion de la politique qui lui restait, qui lui tenait au corps, et en même temps, il était physiquement un peu épuisé, et puis sans doute un peu désabusé quand même. Il était désabusé, mais en même temps, on sentait qu'il était prêt à repartir. Et là, là aussi, c'est un souvenir personnel qui rejoint le travail historique et que j'ai réinterprété après coup. Je l'ai eu au téléphone peu de temps avant sa mort. Il avait le souffle court, je sentais qu'il était fatigué. Mais en même temps, j'ai senti à une ou deux allusions, à un ou deux propos, qu'il songeait, il voyait bien que ça n'allait pas, il savait qu'il pouvait être un recours. On voit fin 2009, début 2010, il savait qu'il pouvait être un recours et je pense qu'il y pensait, qu'il en avait envie, mais voilà, faut-il se résigner? Je pense que c'est la question qui s'est posée, et puis c'est la question qu'à travers son existence, c'est ce qu'il a fait, et puis cette photographie de couverture là, où il a l'air de à la fois lassé en même temps méditatif, c'est la question qui nous pose, est-ce qu'il faut se résigner? Est-ce que vraiment l'histoire est finie? Est-ce que la France, c'est fini?
Est-ce que, parce que vous dites dans votre conclusion, Philippe Séguin l'a compris très tôt, les Français n'ont jamais voulu être gouvernés au centre, ils n'ont jamais voulu de ce qu'il appelait le centrisme éternel. Qu'aurait-il dit avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence? Emmanuel Macron qui souhaite et qui montre une volonté d'incarner, et ça transpire à travers tout votre livre, cette idée d'incarnation des institutions, elle est extrêmement importante chez Philippe Séguin. Est-ce qu'il aurait été séduit par cette incarnation tout en étant énervé par la fameuse phrase « mais en même temps, un coup à gauche, un coup à droite » ?
Difficile de faire parler les morts. J'ai mon opinion sur ce, le connaissant, ayant travaillé beaucoup sur lui, j'ai une idée de ce qu'il penserait, mais je ne veux pas le formuler. Je voudrais simplement, parce que bon, ce serait aller trop loin. Par contre, je voudrais quand même rappeler ce qu'il disait, qui était très gaullien d'ailleurs, pour le coup, très authentiquement gaullien. Il disait, le gaullisme, c'est pas dire que la droite et la gauche n'existent pas. Il y a une droite et il y a une gauche. C'est pour ça qu'il avait fait le choix. Il n'était pas d'accord avec tout. Il trouvait que le mouvement gaulliste était devenu trop droitier dans un certain sens. Mais enfin, il était resté fidèle à sa famille politique jusqu'à ce qu'elle se dilue avec l'UMP dans une sorte de mayonnaise de mauvaise qualité. Et il disait, il y a une droite et il y a une gauche. Mais gouverner un pays, notamment quand on dirige l'État, c'est regarder au-dessus. Mais ce n'est pas nier la réalité. Il y a une droite, il y a une gauche, mais De Gaulle, regardez au-dessus, et c'est très différent. C'est très différent, et donc pour Séguin, il fallait qu'il y ait une droite et qu'il y ait une gauche, et qu'il y ait un débat politique clair, comme il a voulu qu'il y ait un débat politique clair sur Maastricht, même si, évidemment, il dépassait les clivages droite-gauche. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Oui. Merci beaucoup, Arnaud Tessier. Donc, Philippe Séguin, Les remords de la droite chez... l'éditeur partenaire de Storia Voce, Perrin, dans la collection Biographie, un ouvrage à lire pour mieux comprendre cette tranche à la fois de la 4e et de la 5e République, ce personnage étonnant. Philippe Séguin. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je remercie, comme d'habitude, Georges à la technique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.